Le dernier panel de l'après-midi consacré aux scènes étrangères et transferts culturels. Et sans plus attendre, je vais tout de suite passer la parole à Christophe Pirenne, donc, qui va nous parler des Sex Pistols à Liège, un cas de panique morale.
Rebonjour à tous. Je veux simplement m'apercevoir que j'avais déjà beaucoup de défauts, mais j'en ai un supplémentaire, puisque maintenant, je ne suis évidemment pas une femme. Je ne travaille pas sur le punk français à proprement parler. Donc, je vais venir en plus vous parler d'un groupe anglais et sur un projet que j'avais rentré au moment où on avait demandé les appels à communication et qui, finalement, a complètement avorté. Vous allez le voir. Donc, je pense que je cumule les handicaps en début d'après-midi. Donc, j'étais parti d'une sorte d'almanach de la vie musicale à Liège qui avait été publié à la fin des années 80 et j'avais trouvé le passage qui suit dont la teneur me paraissait suffisamment riche que pour pouvoir tenir un bon quart d'heure, enfin 20 minutes je pensais au départ. Et donc le début de ce texte c'était ceci, enfin c'est de ça que je suis parti. Donc vous voyez que pour la fin du mois de janvier, on est en 1900, défaut supplémentaire, je suis belge, je dis 78 au lieu de dire, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et donc pour la fin de ce mois de janvier, à la salle des Tiers de Chesnay, c'est dans la banlieue de Liège, les fameux Sex Pistols sont annoncés. Initialement, le concert devait avoir lieu au foyer culturel. Cependant, son président a été pris de panique quand il a lu dans la Meuse et le Monde du Travail, deux journaux locaux, des articles sur les Pistols écrits comme ayant un comportement fasciste. Une autre salle est alors trouvée, mais les autorités politiques, policières et même les écoles ont décidé, quoi qu'il arrive, que les Pistols ne joueraient pas à Liège. La police demande au bureau du bourgmestre, c'est les maires en Belgique, s'il a délivré une autorisation spéciale pour le concert. On a parlé, ces autorisations spéciales, elles arrivaient généralement le jour du concert. Comme ce n'est pas le cas, la demande est alors introduite en urgence par les organisateurs. Cette demande est portée au bureau du collège Échefinal qui déclare que celle-ci sera examinée au prochain conseil communal prévu pour le mardi. C'est certes sans compter que le concert a lieu le lundi. Les organisateurs décident donc de se passer de l'autorisation, ce qui ne plaît pas à la police. Celle-ci envisage immédiatement d'organiser une surveillance spéciale avec un total de 50 policiers dont la moitié doit se poster à l'intérieur de la salle le soir du concert. Ils ont même répété la manœuvre au concert de Scorpions la semaine précédente. Pour éviter cela et sécuriser tout le monde, Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, envoie un télex certifiant qu'il n'y a eu aucun incident en Hollande lors de leur concert, mais la police ne veut rien entendre. Alors ça se poursuit un tout petit peu en disant que ce n'est pas fini, puisque à côté de la salle où le concert doit se dérouler, il y a une école et que les enseignants ne veulent pas que le concert ait lieu, puisque, je lis de nouveau, le punk est antiscolaire et dangereux pour la jeunesse. Et donc les oppositions ne restent pas verbales. Apparemment, les enseignants auraient démonté la scène en précisant qu'ils veilleront à ce qu'elle ne soit en aucun cas remontée. Donc la partie est difficile, d'autant plus que les places ont été vendues et il y avait déjà une bonne quinzaine de jours avant le concert, 1100 places qui avaient été vendues. Et donc malheureusement, trois jours avant le concert, eh bien Johnny Rotten, qui est excédé du prestige que les Sex Pistols ont, annonce publiquement le split des Sex Pistols et donc ce concert de Liège n'aura jamais lieu. Alors, là-dessus, avec un témoignage qui me paraît être très précis, ou qui est apparemment très, très documenté, pour lequel on a pas mal de sources qui sont référencées, il me semblait qu'il y avait une matière idéale pour faire ou pour travailler sur la structure des paniques morales, telles que notamment Florence Tamagne a déjà pu le faire, notamment en France, pour les concerts de Yéyé à Paris à la fin des années 50, et je m'étais dit que j'allais apporter une pierre de plus dans cet édifice. Et donc, ce que j'ai fait, comme tous les historiens, je suis retourné aux archives de 1978, et effectivement, on voit que les Sex Pistols ont bien dû jouer à Liège à ce moment-là. Les tickets, je suis retombé sur un collectionneur de tickets de concert qui m'en a retrouvé un, et donc qui montre effectivement qu'il y avait eu beaucoup de ventes. C'est le ticket numéro 1013 à cette occasion-là. Et ils revenaient juste à ce moment-là d'une tournée aux États-Unis, et puis ils enchaînaient avec quelques dates au Brésil, et ils passaient pour trois concerts en Belgique, dont le dernier devait avoir lieu à Liège. Alors, donc, ça veut dire que la seule différence, c'est que la séparation des Sex Pistols, elle est annoncée le 18 janvier 1978, 78, et non pas trois jours avant le concert, comme c'est dit dans le texte, mais ça, c'est évidemment un détail. Là où ça se gâte, c'est que quand on consulte les différentes archives qui renvoient aux protagonistes, dans les deux journaux mentionnés, on trouve effectivement deux très brefs articles anonymes qui sont manifestement rédigés par le même journaliste qui copie une dépêche de l'AFP, et dans ces comptes rendus, il y a une d'entre elles qui mentionne effectivement, ou en tout cas qui signale que les Sex Pistols vont quand même pouvoir aller aux États-Unis. Donc c'est la tournée qui se déroule une quinzaine de jours plus tôt. Et donc, Là-dedans, le problème, c'est que quand on lit ça, on ne trouve aucune mention des comportements fascistes qui sont repris dans ma petite chronique rédigée, ou en tout cas publiée une dizaine d'années d'après. Ce qui a pu effrayer, on peut le deviner, c'est la description de la réaction de l'ambassade américaine de Londres, qui a fait initialement refuser le visa aux Pistols pour des raisons, pour des signes évidents, et là je cite à nouveau en ouvrant les guillemets, pour des signes évidents de déviation sexuelle, de turpitude morale et d'instinct criminel. Et donc, comme on le lisait un peu plus loin, le département d'État américain avait lui décidé que le caractère de la prestation des Sex Pistols pouvait être légitime, et donc ils avaient finalement eu leur visa pour aller leur donner leur concert. La question semblait donc résolue. Mais en assumant que le mouvement de panique a été généré, ou le mouvement de panique à Liège a été généré par cette phrase qui faisait allusion à tous les défauts des Sex Pistols, je me suis quand même demandé si je ne trouvais pas d'autres documents en retournant dans les archives de l'administration et dans les archives de la police. Et là, c'est devenu beaucoup plus troublant encore, parce que si je ne comptais pas retomber sur le télex de Malcolm McLaren, ça aurait été trop beau, etc. Mais j'imaginais au moins que dans les séances, les procès-verbaux des séances du Conseil communal, là, j'aurais des traces, évidemment. Chaque point est minutieusement conservé, et là, pas la moindre mention, pas la moindre allusion à ce concert-là. Dans un quatrième temps, donc ça m'a pris des plombes, je suis allé dans les archives de la police en me disant que là aussi, quand on mobilise 50 flics pour aller monter la garde devant un concert, là aussi, ça doit laisser des traces, et on doit évidemment avoir des rapports, et là encore, complètement chou blanc. Et donc, du coup, ma communication, elle devrait s'arrêter là, puisque c'est un double échec, et donc ça me paraît difficile de parler d'une panique morale qui semble avoir été pour le moins relative. Mais je me suis demandé ce que cette espèce de double non-événement voulait dire. En tout cas, je me suis demandé quel était le sens de la différence entre la relation glorieuse de ce concert qui avait été maintenu par-dessus tout contre les avis de pratiquement toutes les instances liégeoises, et la relation de ces mêmes événements 10 ans seulement après qu'ils ne se soient produits. Et donc là-dessus, j'aimerais peut-être formuler deux remarques qui constitueront l'essentiel de ma communication. La première de mes remarques, ça renvoie à toute une série de règles de base de la critique historique qui sont ravivées depuis quelques années par ce qu'on appelle les SCOT, les Social Construction of Technology, puisque comme pour toutes les constructions historiques, l'image du punk qui est véhiculée aujourd'hui, elle résulte d'une construction, me semble-t-il, dont les faits, pour avérer qu'ils soient, parce que les faits, ils se sont bien passés, mais dont les faits, pour avérer qu'ils soient, résultent de toute une série de validations croisées. Pour que les événements vécus, photographiés, enregistrés, mémorisés, etc., s'imposent parmi toute une série d'autres, il faut évidemment qu'ils attirent l'attention, puis qu'ils soient validés, puis qu'ils soient cooptés, et qu'ils finissent par incarner la réalité, alors qu'ils n'en sont qu'une facette, évidemment. Et donc, dans le cas du concert des Sex Pistols à Liège, justement, on découvre qu'en retournant aux sources, en confrontant la mémoire des rescapés à celle des archives, parce que j'ai aussi essayé de prendre contact avec deux des organisateurs, et puis il y en a un qui est décédé, et le suivant m'a raconté une espèce de geste fabuleuse où, effectivement, il s'était posé comme une sorte de résistant face aux injonctions des autorités de l'époque. Donc, lui défendait complètement ce qui avait été écrit dans le document. Mais on est quand même confronté à des divergences qui sont évidentes et à une série de paradoxes qui donne une image du punk qui est un peu différente de celle qui a été véhiculée par un ensemble incroyable de livres aujourd'hui. Et donc ce n'est pas l'image qui ressort quand on va consulter ou quand je vais regarder mes archives, c'est pas celle d'un mouvement qui générait forcément le scandale, mais dans ce cas-ci, c'est l'image d'un genre qui a généré aussi pas mal d'indifférence, tout simplement. Et ce qui est confirmé à l'époque par quelques photographies qui sont tirées d'autres concerts punk qui ont eu lieu à Liège et où on a l'impression que le côté potache est bien davantage présent que le côté vandalisme qu'on a souvent prêté au punk. Et je vous montre quelques-unes de ces photos absolument terrifiantes qui véhiculaient. Donc ça, c'est la couverture d'une photo de 1978 et donc qui a été remise au goût du jour dans une exposition Bloody Belgium, qui est le titre d'une des chansons des Kids, d'un des groupes punk belges de l'époque, et donc une exposition de photographies concernant ce qui s'était passé à l'époque. Et donc voilà ces provocations policières absolument injustifiables. Et donc voilà là aussi ce que pouvait essayer de représenter cette espèce de subversion à l'époque, même si effectivement ça peut prêter à à sourire, mais celui qui embrasse le policier, là, qui s'appelle Bull, effectivement, moi, je pense l'avoir rencontré quand j'étais môme, il faisait peur, et avec son collier de chien et tout ça, les quelques badges, etc., il y avait quand même un espèce, quelque chose d'un peu terrifiant, même si le côté vandalisme, le côté bagarre, etc., je n'ai pas retrouvé de témoignages dans les concerts punk qui ont eu lieu aux alentours de 1977-1978 à Liège. Et donc, on peut imaginer que 10 ans après les événements, la relation du concert a été adaptée dans le sens d'un sensationnalisme qui correspondait mieux à l'image du punk qui avait été validée et qui résultait essentiellement d'une sorte de compression de l'histoire. Pour que l'histoire locale entre en résonance avec l'histoire déjà arrêtée du mouvement à ce moment-là, il fallait bien qu'il y ait des enseignants effarés, qu'il y ait des policiers mobilisés, des autorités publiques aux aguets ou un public potentiellement ingérable. Et si même tout cela n'a pas eu lieu, bien, on a l'impression qu'on a reconstruit un peu tous ces éléments-là pour en faire un événement qui aurait dû, puisque c'était du punk, mal tourné à l'époque. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour dresser un autre portrait du punk, il me semble qu'on devrait, comme l'a suggéré Philippe Vendrix en ouverture de colloque tout à l'heure, travailler sur un ensemble de métadonnées. Et j'aimerais bien un jour qu'on puisse pister l'intégralité des concerts des Sex Pistols ou l'intégralité d'un corpus de concerts punk pour savoir effectivement combien d'entre eux ont vraiment mal tourné, combien d'entre eux ont été interrompus par les autorités ou interdits par les autorités. Et me demander après, est-ce que le punk est finalement beaucoup plus ou a subi en tout cas beaucoup plus d'oppression que les concerts qu'on avait vus, les concerts de Yé Yé à Paris dans les années 50, que les concerts des Rolling Stones au début de leur carrière lorsqu'ils vont aux États-Unis, etc. Et je ne suis pas certain qu'on trouverait des différences qui soient absolument confondantes, et ce qui montre peut-être qu'effectivement dans cette écriture de l'histoire, ce sont des éléments qui ont valeur de synecdoque, qui vont être en fait rassemblés et construire une image qui n'est peut-être pas tout à fait celle qui a effectivement existé. Alors, ma deuxième remarque, les arrangements avec l'histoire, ils sont en partie le fruit d'un emballement médiatique. Et je reviens ici à un élément dont on a déjà évoqué ce matin, avec ce fameux extrait de John Savage qu'on avait déjà parlé, qui disait que sans les médias, effectivement, il n'y aurait jamais eu que 200 punks ou quelque chose comme ça, où on se serait retrouvé dans un tout petit cénacle. Et là aussi, je me suis demandé si on n'était pas s'il était aussi éloigné de la vérité que ce qu'on veut bien dire. Parce que ce qui permet au concert de Liège de gagner un peu d'attention, c'est d'abord et avant tout le rôle que les médias ont pu jouer à ce moment-là, et en particulier les tabloïdes, et la Meuse, là, dont l'extrait, je vous ai montré un extrait tout à l'heure, ça fait partie effectivement de ces tabloïdes, parce que si vous allez regarder dans les journaux sérieux belges de l'époque, donc le soir, la Libre Belgique, il n'y a pas, le nom des Pistols n'est même pas cité dans ce cas-là, et donc il faut qu'on ait des journaux sensationnalistes pour que le punk puisse avoir droit de vigueur. Alors, pour essayer de vérifier s'il y avait effectivement eu un emballement médiatique, je suis un peu sorti de mon sujet, pour arriver au quart d'heure, et donc en sortant de mon sujet, je suis allé interroger le Melody Maker pendant 2 ans, 1976-1978, et me demander si on trouvait dans le Melody Maker cet emballement médiatique dont John Savage et dont tout le monde parle. Et effectivement, là, quand on y retourne, et donc là, on voit effectivement que il y a des adaptations qui paraissent aujourd'hui absolument invraisemblables. Pour mettre le punk en exergue, il faut qu'on réécrive, mais vraiment en direct, l'histoire contemporaine. Et quand on regarde dès l'été 76, le Melody Maker, il est persuadé que la prochaine fureur, c'est pas le punk, c'est pas toute une série de choses, les deux choses qu'on est en train de mettre en avant au début de l'année 76, c'est le reggae et la soul. Et en plus de toute une série d'articles hebdomadaires, pour qu'on leur donne davantage de place, qu'est-ce qu'on fait? On modifie les hit-parades, évidemment. Hein, et la modification des hit-parades, c'est la création en janvier 1976, vous le voyez, d'un soul top 20 dans le Melody Maker et d'un reggae top 20 dans le Melody Maker, des classements qui n'existaient pas préalablement. Donc vous voyez ce après quoi on est en train de chasser. Donc ces deux éléments-là qui sont neufs apparaissent et ils viennent se mettre à côté toute une série d'éléments anciens à l'époque qui sont évidemment le rock progressif que le journal Melody Maker défend depuis ses origines à la fin des années 60. Ça vient se mettre à côté de l'adult oriented rock et à côté toute une série d'allusions qui ne sont pas toujours tendres pour les nouvelles musiques de danse de l'époque, c'est-à-dire le Philly Sound et le disco. Et tout ça, ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est abordé avec des styles d'écriture très différents. Donc ceux qui parlent plutôt de la naissance du punk écrivent de manière un peu gonzo. Ceux qui parlent du rock progressif, ils écrivent de manière presque académique. Et puis, parce qu'ils ne savent pas trop vers où va la scène de punk, on a même, dans le Melody Maker, pour moi ça c'est vraiment le monde à l'envers, regardez, il y a des essais d'universitaires qui sont publiés. Et dans ces essais d'universitaires 1976, vous avez un bel exemple, Tommy Lennon Mao and the Road to Revolution, avec des exemples musicaux dans le Melody Maker en 1976, des références bibliographiques, etc. C'est évidemment un peu le monde à l'envers à l'époque. Et si le décalage du Melody Maker... Et là-dessus, on a donc un décalage qui est important avec les lecteurs habituels, mais on a un décalage qui est bien plus grand encore avec le public habituel. Et donc ce décalage, eh bien, on le voit notamment dans les hit-parades. Je vais effectivement terminer, je vois que la cloche sonne. Le décalage, il est encore bien plus grand avec les hit-parades, puisque les dix premiers classés dans les hit-parades en Angleterre à l'époque, c'est Neil Sedaka, Demis Roussos, Rod Stewart, Diana Ross, Nana Mouskouri, Neil Diamond, etc. Dans les 10 premiers à l'été 76, au moment où le punk émerge, eh bien, il n'y a pas un seul groupe de rock même dans le classement du Melody Maker. Deuxième chose, c'est qu'en dépit de ce décalage entre le goût des gens et la publication, le punk est de plus en plus présent. Et pour vous montrer cette construction médiatique, eh bien, le Melody Maker publie 40 pleines pages sur le punk avant la publication de New Rose, donc le premier 45 tours de Damned. Donc 45 pages alors qu'on ne sait pas écouter une seconde de musique. Là aussi, comme construction médiatique, c'est assez impressionnant. Et donc en dépit de tout ça, ce que je voulais dire, enfin, parce qu'il y avait évidemment d'autres éléments à signaler, c'est que pour pouvoir imposer le punk, et comme ça ne se fait pas, eh bien alors ils vont proposer aux gens des choses qui sont radicales. Donc dans les forums de fin d'année, où on vous demande qui est le meilleur batteur, qui est le meilleur bassiste, etc., on a Top British Singer, Johnny Rotten, John Anderson, Top Drummer, Karl Palmer, etc., Top Live Act. Et donc on présente les choses de manière très binaire, mais pour présenter les choses de manière très binaire, il a fallu laisser tomber tout le reste. On a dû laisser tomber le reggae, on a dû laisser tomber la soul, on a dû laisser tomber la horreur, etc. Et donc ça devient finalement, à partir de 77, une espèce de confrontation simplement entre rock progressif et punk. Et puisque les gens continuent jusque 79 à dire que le meilleur groupe de rock anglais, c'est Yes, eh bien alors on va changer les référendums et donc supprimer toutes ces classifications du meilleur batteur, du meilleur chanteur, du meilleur guitariste, puisqu'ils savent qu'ils sont perdants à tous les coups. Et donc on voit que la presse modifie au fur et à mesure des mois sa structure pour pouvoir plaider pour le punk. Et donc pour conclure, je me demande si le concert avorté de Liège n'est pas la victime d'une tendance de fond de l'époque, soit le souhait de la presse rock en particulier de s'accrocher de manière complètement caricaturale à son rôle de prescripteur. Simon Reynolds, dans Rip It Up and Start Again, défendait l'idée que c'était à l'extrême fin des années 70 qu'on avait commencé à avoir un décalage entre la presse et le goût des consommateurs de musique. Eh bien, il me semble qu'avec ces exemples-là, il faut anticiper un peu plus ce décalage-là. Et j'ai l'impression parfois que dès 1973-1974, la presse rock commence à parler de toute une série de répertoires qui sont extraordinairement peu consommés dans la réalité. Et ce sera le cas en termes de vente uniquement, évidemment, pour le punk. Voilà, merci de votre attention.